Bonjour Hervé.
Bonjour.
Vous avez tout lu. Vous m'avez confié que la lecture des journaux ce matin, vous avez mis le moral dans les chaussettes.
Oui, le scénario du pire est en une partout ou presque dans la presse ce matin. Le Figaro et l'Opinion titrent sur le commerce extérieur, point noir de l'économie française pour le premier, échec à 100 milliards pour le second. On comprend pourtant en lisant les articles que notre déficit commercial se réduit. Les Échos annoncent de leur côté une zone de turbulence pour Emmanuel Macron. Il faut trouver 10 milliards d'économies supplémentaires dans le budget et on se demande bien où. Valeurs Actuelles offre sa couverture à Marine Le Pen avec un sondage présidentiel qui la donne gagnante face à Gabriel Attal et à égalité avec Édouard Philippe, titre du magazine « Le coup de tonnerre Le Pen ». C'était, vous vous en souvenez, l'expression de Lionel Jospin le 21 avril 2002, le coup de tonnerre. Pour Valeurs Actuelles, ce serait plutôt un orage désiré, comme disait Chateaubriand. Et Le Point, lui, titre carrément « Si Poutine gagne », avec une photo du maître du Kremlin à vous glacer le sang.
Effectivement, ça met le moral dans les chaussettes. Ça rappelle cette chanson de Stéphane Echer qui s'appelait « Déjeuner en paix ». L'hebdomadaire publie un long reportage exclusif en Ukraine, dans l'enfer de la ligne zéro, c'est-à-dire dans la première tranchée, aux côtés des soldats ukrainiens. Les tranchées existent toujours, plus d'un siècle après la guerre de 14-18.
Oui, reportage éprouvant et impressionnant dans Le Point, donc, signé Boris Mabillard et Sergueï Chestak. La ligne de front passe au cœur de la forêt, au milieu des troncs calcinés et broyés par les obus. Les armes manquent, les hommes aussi. Depuis la fin de l'automne, les forces russes multiplient les assauts aériens et terrestres. Elles grignotent du terrain au mépris de pertes humaines colossales. D'un côté comme de l'autre, l'infanterie paie le tribut le plus lourd dans ce hachoir. Personne ne veut se retrouver dans les tranchées de la ligne zéro. Les reporters ajoutent, seuls ceux qui ont le cœur bien accroché et le cuir solide peuvent supporter de rester sans répit dans cet enfer pendant des jours.
Le reportage décrit le déséquilibre des forces qui se creusent en faveur de l'armée russe et le recul progressif de la résistance ukrainienne.
Oui, on est loin de l'orgueil des soldats ukrainiens galvanisés par leur premier succès. Mario, l'un des chefs du bataillon, raconte comment les Russes ont sacrifié des jeunes soldats en les faisant courir sur les mines ukrainiennes avant de lancer les forces d'assaut. Ils ont avancé de 150 mètres au prix de centaines de vies, dit-il. Depuis, le pilonnage continue. L'usage massif des drones a changé la donne, explique Le Point. Grâce à eux, les Russes détectent le moindre mouvement. Notre artillerie vise les cibles de valeur, matériel militaire ou équipement, explique Mario. Eux visent les hommes car ils savent qu'on en manque. Plus tard, le psy du régiment confie aux journalistes que sa tâche est de rassurer les soldats pour qu'ils restent au front. Ils ont peur de la mort plus que des blessures. Ils font des rêves. Moi, heureusement, je n'en fais pas.
Alors ce n'est pas une guerre, mais presque, et c'est un sujet très sérieux. En Colombie, la population s'inquiète de la violence des hippopotames.
Oui, l'histoire est racontée par le site Slate.fr et d'une certaine façon, elle parle des effets de la drogue, vous allez comprendre. Les hippopotames en question sont en effet les enfants de ceux que Pablo Escobar, le chef du cartel de Medellín, avait fait venir d'Afrique et installé dans son ranch. Depuis la mort d'Escobar en 93, les quatre hippopotames, un mâle, trois femelles, ont tellement procréé qu'ils ont aujourd'hui 170 descendants dans le nord de la Colombie. Le problème est qu'ils sont de plus en plus violents jusqu'à attaquer les humains et ils détruisent tout l'environnement sur leur passage, des sols jusqu'aux cours d'eau. Le gouvernement de Bogota a donc envisagé d'abord un plan de stérilisation, mais les vétérinaires ont vite renoncé face à des bêtes de 1,5 tonne qui montraient les dents. Ensuite, on a étudié l'idée d'une exportation vers l'Inde ou le Mexique, une remigration, comme dirait Éric Zemmour. Désormais, c'est un plan d'euthanasie des hippopotames qui est à l'étude, écrit Slate. À la fin, c'est toujours aux humains de défendre la nature.
Ouais, et à la fin, c'est les animaux qui perdent en général. Peut-être enfin un peu d'optimisme pour terminer. Un ancien champion olympique français, Charles Coste, va porter la flamme olympique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
Oui, et il a 100 ans. Il fête même son centenaire aujourd'hui à Bois-Colombes. D'après Le Figaro et Ouest-France, qui publient tous les deux un long portrait de lui, Charles Coste est le plus vieux médaillé d'or vivant aujourd'hui. Titre obtenu aux Jeux Olympiques de Londres en 1948 en cyclisme, poursuite par équipe pour être précis. Il est en bonne santé, visiblement il a gardé toute sa mémoire. Tony Estanguet, autre champion olympique et maintenant président du comité d'organisation des JO de Paris, lui a remis la Légion d'honneur il y a 2 ans. Porter la flamme est pour Charles Coste un grand honneur qu'on ne refuse pas, même si son arthrose des genoux lui interdira de la porter longtemps, regrette-t-il. Contrairement à beaucoup de grincheux, Charles Coste est ravi de voir les JO revenir à Paris. C'est formidable, dit-il, je suis pour, ça fait un siècle que la France attend, ce sera inoubliable.
Alors, est-ce qu'il se souvient bien de sa victoire olympique? C'était quand même il y a 76 ans.
Oui, il a gardé les journaux de l'époque, mais ses souvenirs semblent frais. Ses 3 équipiers sont morts, il les associe à ce qui lui arrive aujourd'hui. Il raconte la remise des médailles. C'était un tout petit podium, on ne pouvait pas tenir à 4 ou tout juste. À l'époque, on ne mettait pas la médaille autour du cou, on la donnait dans un écrin avec un beau bouquet. On a attendu sur le podium et à un moment, on nous a dit « Vous pouvez descendre ». On n'a pas trouvé le disque de la Marseillaise. On était un peu déçus, alors on a chanté l'hymne entre nous. Après les Jeux Olympiques, il est devenu cycliste professionnel. Il a couru 2 Tours de France et 4 Tours d'Italie. Il a gagné quelques courses. « J'ai mené une vie saine, sans excès », dit-il. Cet été, il s'est promis d'aller voir au moins les épreuves de cyclisme. Il espère recevoir une invitation. Ces jours-ci, il n'y a plus guère que les centenaires pour regarder l'avenir avec optimisme.
Hervé Gattegno, conclusion philosophe aujourd'hui. Je vous dis à demain,
à
Hervé.
Demain.
Et tout de suite, Franz-Olivier Gisbert, notre événement.